France Culture.
Entretien avec Francis Ponge par Philippe Solers. Aujourd'hui, 7e entretien, pratique et théorie, parti pris des choses, proème.
Francis Ponge, nous passons maintenant à l'essentiel puisque nous entrons dans une série d'entretiens qui est consacrée entièrement à vos textes. Et d'abord, je voudrais vous poser une question, celle de la classification et de la publication de ces textes. Il me semble que tels qu'ils sont publiés, ils ne laissent pas entièrement percevoir, apparaître, votre projet fondamental, votre projet de classification. Et je voudrais vous demander comment vous concevriez vous-même une classification utopique, une classification qui donnerait un rendement maximum à tous ces textes écrits pendant des années. Soit qu'on pense à une classification de type objectif, c'est-à-dire selon les chapitres du monde extérieur traités, c'est-à-dire on peut penser à une classification sous la dénomination « éléments »,« eau »,« feu »,« terre »,« air », sous la dénomination « règne », animal, végétal, minéral, les objets humains, les objets esthétiques. Et puis, on peut penser aussi à une classification d'ordre purement textuel. Et vous parlez assez souvent de dictionnaires sensibles. Est-ce qu'il s'agit d'autre part d'une encyclopédie, d'une sorte de bible, d'une sorte de roman, de journal, de cosmogonie? Bref, quelle serait dans votre pensée la classification, enfin le livre tel que vous le verriez fonctionnant et faisant communiquer et mettant en écho tous ces textes les uns avec les autres?
Bien sûr, il faut que j'insiste sur le fait que les conditions dont nous avons parlé dans les deux premiers entretiens, les conditions de travail d'un artisan de mon genre, n'est-ce pas, sont telles que j'ai été publié de la façon la plus désordonnée qui soit. Ça, c'est pas ma faute. Enfin, c'est parce que les possibilités d'édition se sont présentées de façon tout à fait incohérente, comme cela, n'est-ce pas? Quant à la classification idéale, eh bien, oui, j'ai pensé très souvent que cela aurait pu prendre la forme d'un dictionnaire, par ordre alphabétique, puisqu'enfin c'est une espèce de recensement, enfin général, des notions que je prétendais faire. Je l'ai dit dans un texte intitulé « Introduction au galet », n'est-ce pas, qu'il était impossible pour un homme de notre époque de saisir l'ensemble des connaissances et par conséquent de faire quelque chose qui soit comparable aux cosmogonies des Grecs présocratiques, n'est-ce pas ? Parce que les sciences se sont développées de telle façon et divisées de telle façon qu'il faudrait plusieurs vies d'hommes. Et alors, à ce moment-là, je dis, le plus simple est de reprendre tout du début, s'allonger sur l'herbe et de recommencer comme si on ne savait rien. N'est-ce pas bon? Donc, pas de cosmogonie, des éléments d'une cosmogonie, peut-être classés sous forme de dictionnaire sans fin. J'avais l'exemple d'un livre que m'a donné ma mère au moment de ma première communion, qui est une Bible protestante divisée en deux colonnes, ou plutôt en trois, deux colonnes de texte à droite et à gauche de chaque page, et au centre de chaque page, des notes de référence, c'est-à-dire pour un mot dans la colonne de gauche, une note au centre indiquant que le même thème réapparaît dans tel ou tel livre de la Bible, n'est-ce pas? Et alors, comme chez moi, il y a évidemment constamment des reprises de thèmes, enfin des variantes, des diversifications des thèmes, ça pourrait être assez intéressant. J'ai pensé à d'autres moments que je pouvais en effet présenter les choses sous forme de journal poétique. Je l'ai fait dans les textes de la Rage de l'Expression. On pourrait appeler ça roman parce que c'est aussi la vie d'un homme. Enfin, il y a un très beau titre de Ungaretti pour ses poèmes, Vita d'un homme. Et en effet, pour un artiste, enfin, ou un ouvrier de mon genre, la vie et l'œuvre ne font qu'un, n'est-ce pas ? Ça, c'est une expression de Braque que je prends tout à fait à mon compte.
Cette publication en désordre est peut-être responsable d'un certain nombre de malentendus dans la lecture de vos textes. Nous abordons maintenant le parti pris des choses, si vous voulez bien. Et je remarque deux contresens qui sont constamment pratiqués. D'abord, on vous prend pour quelqu'un qui s'acharne à décrire des choses sans jamais remarquer le travail extrêmement précis qui est fait sur le texte lui-même, sans remarquer ce que j'appellerais sa double inscription, son côté de mise en italique sous son impression en caractère de capital, sans remarquer ce qui court derrière le texte ou, pour reprendre une de vos expressions, sans remarquer ce travail dans le squelette, justement, de la langue qui est constant dans le parti pris. D'où un autre contresens très souvent fait aussi, croyant que vous êtes quelqu'un qui veut décrire les choses de façon la plus objective possible, l'accusation d'anthropomorphisme, l'accusation de valoriser ou de qualifier ces choses abusivement avec des caractères humains. Je voudrais d'autre part que vous essayiez de nous montrer comment ces textes, loin d'être à une seule dimension descriptive, s'enfoncent en eux-mêmes par un procédé que j'appellerais celui de l'anagrammatisation, c'est-à-dire qu'ils sont en même temps, bien sûr, la description de l'objet fini auquel ils se rapportent, mais ils sont aussi, me semble-t-il, la description du mot qui les signe, qui les couvre comme titre, et qui court incessamment à travers le texte lui-même. C'est cette double dimension, trop souvent méconnue, que je voudrais vous demander d'éclaircir.
Eh bien, nous allons commencer. Je vais commencer par lire un texte. Je le prends court, parce que mes explications sont souvent longues. Il s'agit d'un texte du Parti pris des choses intitulé « L'huître ». Je commence à le lire entièrement pour que le rythme n'en soit pas défait, et ensuite je le reprendrai phrase par phrase. L'huître. L'huître de la grosseur d'un galet moyen et d'une apparence plus rugueuse, d'une couleur moins unie, brillamment blanchâtre. C'est un monde opiniâtrement clos. Pourtant, on peut l'ouvrir. Il faut alors la tenir au creux d'un torchon, se servir d'un couteau ébréché et peu franc, s'y reprendre à plusieurs fois. Les doigts curieux s'y coupent, s'y cassent les ongles. C'est un travail grossier. Les coups qu'on lui porte marquent son enveloppe de ronds blancs, d'une sorte de halo. À l'intérieur, l'on trouve tout un monde, à boire et à manger. Sous un firmament, à proprement parler, de nacre, les cieux d'en dessus s'affaissent sur les cieux d'en dessous pour ne plus former qu'une mare, un sachet visqueux et verdâtre qui flue et reflue à l'odeur et à la vue, frangé d'une dentelle noirâtre sur les bords. Parfois, très rare, une formule perle à leur gosier de nacre, d'où l'on trouve aussitôt à s'orner. Voilà le texte. Alors, je le reprends. J'indique d'abord qu'il se divise typographiquement sur la page en trois paragraphes. Le premier décrit l'huître et la façon de l'ouvrir, le second l'intérieur de l'huître, et le troisième, beaucoup plus court, et qui ne fait que deux lignes, il s'agit de la perle qu'on y trouve parfois, parce que la perle est proportionnellement beaucoup moins importante, au point de vue du volume, enfin de l'importance quantitative, que l'huître elle-même. Donc la division en paragraphe est déjà adéquate, si vous voulez, à l'objet. L'huître de la grosseur d'un galet moyen et d'une apparence plus rugueuse, d'une couleur moins unie, brillamment blanchâtre. Il y a là, évidemment, une sorte de métaphore, le rapport de l'huître et du galet. Mais c'est traité, d'abord de la façon la plus froide, enfin il me semble, vous avez vu aussi la façon dont je lis ces textes, c'est-à-dire sans faire de trémolo, hein, sans tremblement sentimental. On peut croire, en effet, qu'il s'agit d'une pure description. Je définis sa taille, n'est-ce pas, de la grosseur d'un galet moyen, d'une apparence plus rugueuse, d'une couleur moins unie, brillamment blanchâtre. Ici, j'insiste sur brillamment blanchâtre. Pourquoi ? Parce que il se trouve que les mots, quels qu'ils soient, même les mots abstraits, sont tous affectés d'un coefficient de valeur. C'est quelque chose d'un peu absurde, mais c'est comme ça. En français actuel, brillamment est affecté d'un coefficient positif, comme valeur morale, si vous voulez, ou esthétique. C'est bien d'être brillant, c'est bien, c'est beau. Briller, c'est affecté d'un coefficient positif. Au contraire, blanchâtre, comme beaucoup de mots se terminant en âtre, est affecté d'un coefficient négatif, péjoratif. C'est comme ça. C'est aussi absurde que le sexe des mots. Pourquoi sont-ils bons ou mauvais au sens moral ? Dieu sait pourquoi. Toujours est-il que c'est comme ça. Eh bien, le seul fait d'agencer un mot de coefficient positif, comme brillant, et un mot de coefficient négatif, péjoratif, comme blanchâtre, nous fait sortir du lieu commun. C'est-à-dire que brillamment blanchâtre est exactement le contraire d'un lieu commun. Et remarquez aussi que cela constitue, du point de vue des qualités, si vous voulez, et là nous en venons un peu déjà à l'anthropomorphisme qu'on me reproche. Évidemment, nous sommes dans l'anthropomorphisme à partir du moment où nous constatons objectivement que les mots sont affectés d'un coefficient moral. Nous y sommes, et nous ne pouvons pas faire autrement. Et si nous venons traiter les mots de façon communicative, nous sommes parfaitement obligés de tenir compte, et aussi de ne pas trop tenir compte, de combattre ces acceptions morales et sentimentales. Par conséquent, si je rapproche ces deux mots, je sors du lieu commun et je crée un caractère, au sens de caractère d'un héros de roman, par exemple, qui sera tout à fait hors des normes courantes, c'est-à-dire que il pourra y avoir un héros de roman qui sera à la fois brillant et blanchâtre, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, voilà deux qualités, un complexe de qualités, n'est-ce pas, contradictoire, qui crée un personnage, un caractère, un héros de roman, qui sortira du conventionnel. Bon, ensuite, je continue. C'est un monde opiniâtrement clos. Alors là, il y a une petite anecdote. Je suis arrivé un jour à Chicago, à l'Université de Chicago, pour y faire une conférence, ou plutôt une lecture commentée de mes textes. J'y ai lu l'huître, avec un commentaire à peu près celui que je suis en train de vous faire. À peu près, évidemment, puisque chaque fois, c'est inventé, c'est déchiffré. Quand on déchiffre un morceau de musique, c'est improvisé. Bon. Et arrivant au mot blanchâtre, ou immédiatement ensuite, à « c'est un monde opiniâtrement clos », j'ai immédiatement fait remarquer que comment se faisait-il que dans ce texte, et il y a d'autres mots du même ordre plus loin, il y ait souvent des mots qui se terminent par « âtre », par exemple, c'est-à-dire A accent circonflexe, T, R, E. Eh bien, ce n'est pas du tout par hasard, bien sûr. Pourquoi ? Eh bien, parce que huître, aussi, l'huître elle-même, est un mot qui se termine par une voyelle, ou plutôt une diphtongue, si on veut, huître, enfin, I accent circonflexe, T, R, E. Il est évident que si dans mon texte se trouvent des mots comme blanchâtre, opiniâtre, verdâtre, ou Dieu sait quoi, c'est aussi parce que je suis déterminé par le mot huître, par le fait qu'il y a là accent circonflexe, voyelle, TR, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, j'ai dit cela. Pourtant, dans l'assistance, il y avait là un professeur. Un professeur qui a acquis une certaine notoriété pour avoir écrit un essai important sur robe grillée. Ah, ce professeur s'appelle Morissette. Dans ce livre, M. Morissette reprend les arguments de robe grillée, théorique, n'est-ce pas, selon lesquels il faut faire quelque chose de parfaitement objectif et ne pas se référer aux sentiments ou aux choses de l'homme, n'est-ce pas? Bon. Alors, M. Morissette, à la sortie, m'a dit, mais enfin, avouez, dans votre huître. Nous avons, par exemple, c'est un monde opiniâtrement clos. Il me dit ça, enfin, c'est de l'anthropomorphisme. L'huître n'est pas opiniâtre, enfin, c'est un sentiment humain. Alors, je lui ai répondu en lui disant, écoutez, cher monsieur, vous ne m'avez pas écouté, sans doute, parce que j'ai bien expliqué que si j'avais mis opiniâtre, c'était à cause de l'accent circonflexe et du TRE. C'est en grande partie pour cela. Et le fait que, par ailleurs, l'huître est difficile à ouvrir, il me paraît difficile de l'exprimer autrement qu'en prononçant le mot opiniâtre. Enfin, il est évident que l'huître se referme quand on veut l'ouvrir et que, donc, comment ne pas être anthropomorphe? Ça, c'est une très grande question, n'est-ce pas? Mais vous n'avez pas tenu compte du tout de la critique littérale, n'est-ce pas, que j'ai faite de mon texte. Bon, alors voilà pour opiniâtre. Pourtant, il faut l'ouvrir, il faut alors la tenir au creux d'un torchon, se servir d'un couteau ébréché et peu franc, s'y reprendre plusieurs fois. Les doigts curieux s'y coupent, s'y cassent les ongles, c'est un travail grossier, etc. À l'intérieur, on trouve tout un monde à boire et à manger. Ici, je dois remarquer que j'emploie des expressions très courantes, n'est-ce pas, tout un monde, par exemple, ou à boire et à manger. Mais je les emploie en leur redonnant toute leur force. N'est-ce pas? Il est évident que quand je parle de tout un monde, ensuite je parle des cieux d'en dessus, des cieux d'en dessous, du firmament, il s'agit vraiment du cosmos. Et en même temps, c'est l'expression courante, tout un monde. Il y a là plusieurs niveaux de signification. Par ailleurs, quand je parle de à boire et à manger, c'est exactement vrai. Quant à l'huître, on boit et on mange, n'est-ce pas? Et quand on dit on y trouve à boire et à manger, c'est un lieu commun. Je reprends ce lieu commun, ça peut se lire tout uniment comme ça, mais en même temps, je redonne sa valeur profonde à ces expressions. Là aussi, il y a un double niveau de signification, au moins un double niveau. Sous un firmament à proprement parler de nacre, évidemment, là, il y a peut-être quelque chose d'un peu pédant. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut savoir que firmament signifie le ciel, comme le concevaient certains anciens, n'est-ce pas ? C'est-à-dire comme une coupole, n'est-ce pas, solide, ferme, firmament, n'est-ce pas? Et alors, pour la nacre, c'est évidemment quelque chose de ferme et de solide. Et ça me permet ensuite de parler des cieux d'en dessus et des cieux d'en dessous, n'est-ce pas, qui sont alors les deux parties comestibles de l'huître. Alors là, évidemment, c'est un peu pédant. On ne m'a pas fait ce reproche, mais on aurait pu me le faire. Là, je suis un peu cuistre, évidemment. Moi, je me le fais à moi-même, hein. Pour ne plus former qu'une mare, un sachet visqueux et verdâtre. Alors là, il y a une description, si vous voulez, en un sens, mais je crois qu'elle est très stricte, qu'elle ne tient pas beaucoup plus de place que le sachet lui-même. Le sachet visqueux et verdâtre, eh bien, étant donné aussi le nombre de voyelles, le Q-U-E, qui est quelque chose de visqueux par lui-même, n'est-ce pas? Et de nouveau le verdâtre, il me semble que je suis aussi proche que possible de la vérité, dans le langage, n'est-ce pas, de ce que je veux dire. Qui flue et reflue à l'odeur et à la vue, frangé d'une dentelle noirâtre sur les bords, encore noirâtre, naturellement. Là, il s'agit d'une portugaise, évidemment, parce que d'autres huîtres n'ont pas de dentelle noirâtre. Et enfin, l'histoire de l'huître, parfois très rare. D'abord ici, parfois très rare, c'est le contraire. Enfin, là, je travaille la syntaxe, parce qu'on ne doit pas dire ça. N'est-ce pas? Parfois, c'est divisé en deux, si vous voulez. De rares fois. On devrait dire parfois très rarement, mais comme je veux être bref, parce que la perle est brève, c'est très très concis une perle, eh bien j'emploie cela qui est, et je force la syntaxe, là. Parfois très rare, une formule, perle. Alors là je n'emploie pas le mot la perle, j'emploie le verbe perler, n'est-ce pas, comme on dit qu'une larme perle, ou une goutte de sueur perle. Une formule. Le mot est pris dans sa signification la plus complète. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une formule? C'est une petite forme, c'est le diminutif de forme. Et en même temps, bien sûr, il s'agit de la formule au sens d'un texte, n'est-ce pas, ou de quelque chose qui est dit de la façon la plus brève et la plus résumante, n'est-ce pas? Voilà. Alors là, j'entre, évidemment, dans la signification, comment dirais-je, profonde, d'art poétique, qui se trouve à l'intérieur de mon texte, n'est-ce pas? Il s'agit là aussi de la formule de langage, n'est-ce pas? Perle, alors gosier de nacre. Naturellement, alors là, j'insiste sur le fait que cette formule est aussi une formule de parole, n'est-ce pas? D'où l'on trouve aussitôt à s'orner. Il y a là comme une sorte de critique à l'intérieur du texte du fait que je morde moi-même de la qualité précieuse et rare de mon style. C'est-à-dire qu'on m'a fait le reproche d'être précieux. Eh bien là, je me critique lui-même. Je morne, on s'orne, on fait une épingle de cravate de la perle, si on la trouve. Ou bien on va chez Cartier et on en obtient un certain nombre de centaines de mille francs, n'est-ce pas? Mais le plus volontiers, le poète ou l'écrivain s'en orne, n'est-ce pas? D'une formule, c'est dans Mallarmé, n'est-ce pas? Dans l'espoir de s'y mirer. Hein? Eh bien, ce n'est pas un miroir, mais c'est un ornement. Je crois que je vais en finir là parce que le temps est bref et je n'ai pas du tout donné une explication exhaustive du texte. Loin de là. Voilà seulement ce que je voulais en dire aujourd'hui.
Entretien avec Francis Ponge par Philippe Solers. C'était aujourd'hui le 7e entretien, pratique et théorie, parti pris des choses, proème. Assistant Jacques Devin. Mercredi 3 mai à 22h40, 8e entretien, pratique et théorie, la rage de l'expression, le grand recueil.